Voilà, ce matin, j'aimerais, chers frères et sœurs, chers amis, nous entretenir sur un thème tout simple, hein, avec cet été qui arrive. C'est sur la parole de Dieu, tout simplement. L'importance de la parole de Dieu. Hein. Le problème de notre humanité tout entière, c'est le rapport qu'elle entretient avec la parole de Dieu. Si on faisait un sondage, je crois qu'on verrait que l'une des choses avec lesquelles nous avons le plus de mal, même en tant que chrétiens, c'est la lecture de la parole de Dieu. J'ai trouvé un petit sondage sur Internet où il est dit, une enquête récente, alors je ne sais plus en quelle année ça a été faite, mais en tout cas, la société biblique en Nouvelle-Zélande révèle que le nombre de personnes qui lisent régulièrement est peu élevé, et cela en dépit du fait que la plupart des chrétiens considèrent le texte biblique, qui considèrent que le texte biblique est important ici. Donc on a interrogé à peu près 2050, 2048 personnes, et sur ces personnes interrogées, 21% seulement déclarent lire la Bible quotidiennement, c'est parmi les chrétiens. Et la même tendance a été observée aux États-Unis et puis aussi en Europe, et le professeur qui a demandé, qui a dirigé ses études, constate que les chrétiens tendent à ne plus avoir conscience que la Bible joue un rôle primordial dans le façonnement de l'identité chrétienne. Donc, la question qu'on pourrait se poser ce matin, c'est avons-nous conscience de l'importance de la parole de Dieu. Est-ce que nous la lisons? Est-ce que nous l'étudions? Est-ce que nous la méditons? Et je voudrais juste prendre un texte ce matin dont un verset a déjà été cité, dans Matthieu chapitre 4, texte que vous connaissez bien, Matthieu chapitre 4, où nous avons la scène de la tentation de Jésus. Matthieu chapitre 4. Et nous avons donc le récit, juste après le baptême de Jésus, nous avons le récit de sa tentation. Matthieu chapitre 4, verset 1, nous lisons la parole de Dieu, il dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans une ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet. » Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te demandons ton aide pour que nous puissions comprendre ta parole et aussi que nous par ton esprit, nous ayons des cœurs qui se soumettent à ta parole, qui la reçoivent et qui lui obéissent pour la gloire de ton nom et pour notre bien. Amen. Alors, bien sûr, je vais pas traiter l'aspect de la tentation de Jésus particulièrement ce matin, mais ce que je voudrais souligner, c'est comment Jésus répond. Hein. À la tentation. Comment, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il utilise. Et ça saute aux yeux, c'est évident ici. Hein. On voit Satan qui vient par trois assauts à chaque fois pour demander à Jésus de prendre un chemin particulier. Hein. Il est dans le désert, il a 40 jours de jeûne, il a faim, et bien sûr, Satan lui propose d'utiliser, s'il est fils de Dieu, parce qu'il vient d'être dit au chapitre 3, verset 17, hein, c'est ce que nous lisons, et voici une voix se fit entendre des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la tentation du diable, c'est si tu es fils de Dieu, eh bien, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc c'est une proposition d'utiliser, puisqu'il est fils de Dieu, hein, le pouvoir qu'il a afin de subvenir à ses propres besoins et de se tirer de la situation dans laquelle il se trouve. Et Jésus dit, tout simplement, il est écrit et puis il cite la parole. Après, le diable revient, nous dit-on, dans ce texte avec une autre tentation. Et lui-même, il cite, d'ailleurs, la Bible, hein, vous le voyez, il dit, verset 6, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront. » Donc, ici, il cite la Bible, et propose aussi à Jésus, bien, puisque Dieu a promis de faire quelque chose, eh bien, il faut l'éprouver. Hein, faut mettre Dieu à l'épreuve, et puis, puisqu'il a promis que des anges vont te porter, ben, voilà, je te propose de prouver ta filiation en te jetant du haut de ce temple. Et puis, si tu es vraiment fils de Dieu, bien, tu seras rattrapé. Et Jésus, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait encore ici, on le voit, il cite l'Écriture. D'accord? Alors, et il dit ici, tu ne tenteras pas point le Seigneur ton Dieu. Alors, le diable le transporte sur une montagne très sur une montagne très élevée, et puis il lui dit, voilà, je vais te donner tous ces royaumes, tous les royaumes du monde et leur gloire, si tu te prosternes. Et si tu m'adores. Voilà ce que le diable cherche, à être adoré comme Dieu doit l'être. Et Jésus dit ici, retire-toi de moi, Satan, et il ajoute, car il est écrit, encore une fois, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ici, hein. Et à chaque fois, chaque assaut, on pourrait dire, ce que Jésus a fait, c'est qu'il s'est réfugié dans la parole, dans l'Écriture. Et les trois citations qu'il donne ici sont toutes trois tirées du Deutéronome, ici. Et il répond, si vous voulez, là on pourrait dire l'arme, l'unique arme que Jésus utilise ici, c'est la parole de Dieu. Et même lorsque le diable cite la parole de Dieu, le diable cite le psaume 91, et Jésus revient encore dans Deutéronome, et il dit, voilà, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Et puis la dernière tentation, le dernier assaut, c'est quand même une allusion que le diable fait à la parole de Dieu, parce qu'il dit à Jésus, tu te prosternes devant moi, et je te donnerai tous les royaumes de la terre. Et vous vous souvenez que dans le psaume 2, il est dit, demande-moi les nations comme héritage et je te les donnerai. Donc c'est une promesse, hein, que Dieu fait à son fils de donner les nations comme héritage. Et le diable propose qu'il reçoive ces choses, mais autrement que par le chemin qui mène à la croix, autrement que par le chemin de souffrance. Et Jésus montre vraiment à quel point il est soumis à la parole de Dieu, parce qu'il revient systématiquement à la parole de Dieu. Il refuse tout autre moyen que celui que Dieu a pourvu. Alors, ce que je voudrais souligner, et le titre de mon message ce matin, c'est l'importance de lire et d'étudier la parole de Dieu. Pour nous qui aurons plus de temps dans cette période estivale, Eh bien, c'est à partir de ce texte et de l'exemple de Jésus, pourquoi est-ce qu'il est important de lire et d'étudier la Bible et la parole de Dieu. Tout d'abord, on voit ici que l'attachement à la parole de Dieu se manifeste par l'attachement à Dieu, tout simplement, se manifeste par la soumission à sa parole. L'attachement à Dieu se manifeste par la soumission à la parole de Dieu. Dieu vient de dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, on a dit, verset, chapitre 3, verset 17, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et le diable vient, tente Jésus sur cette déclaration, même cette parole même de Dieu. Et que fait Jésus? Il montre sa soumission à la parole de Dieu. Il montre qu'il est vraiment fils de Dieu. Non pas en utilisant de n'importe quelle manière sa puissance, non pas en mettant Dieu à l'épreuve, non pas en acceptant un autre chemin pour avoir ce que Dieu a promis, mais il montre qu'il est fils de Dieu en s'attachant aux paroles de Dieu et en se soumettant à la parole de Dieu. Le fait qu'il cite à chaque fois l'Écriture montre sa, pour ne pas faire ce qui lui est proposé, montre sa soumission à la parole de Dieu. À chaque attaque du diable qui avait pour but de détourner Jésus de sa mission, si tu es fils de Dieu, c'est comme ça que le diable dit les choses, eh bien Jésus montre son attachement à la parole de Dieu. Et il reste là où Dieu a prévu qu'il reste. Rappelez-vous dans Matthieu 27, à la fin, quand Jésus est sur la croix, vous vous rappelez, il y a des passants qui sont là, et puis qui disent, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Et puis ils ajoutent, si tu es fils de Dieu, même expression que Satan utilise ici, si tu es fils de Dieu, qu'est-ce qu'il propose? Descends de la croix. Montre ta puissance, puisque tu es fils de Dieu. C'est comme ça que les hommes veulent montrer, n'est-ce pas, leur puissance. On montre qu'on appartient au Seigneur parce qu'on peut faire des choses extraordinaires. On peut faire des miracles. Et parfois, nous disons, ouais, ça, c'est quelqu'un qui a la puissance qui vient de Dieu, la grande, parce qu'il peut faire des choses extraordinaires. Mais Jésus, qui avait le pouvoir de descendre de la croix, qui avait le pouvoir de changer les pierres en pain, qui a fait, on l'a lu tout à l'heure, la multiplication des pains pour des milliers d'hommes, il n'a pas utilisé ce pouvoir pour se sortir de la situation, ni pour montrer vraiment qu'il est fils de Dieu. Il montre son attachement à Dieu uniquement par la soumission à la parole de Dieu. Et son attachement à Dieu se voit par les citations précises qu'il fait de l'Écriture. Et ça montre, ces citations montrent, dénotent, si vous voulez, une familiarité de Jésus avec l'Écriture. Il cite à chaque fois des passages du Deutéronome, donc pour le verset, quand il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement », c'est Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Après, quand il dit au verset 7, il dit « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu », ça c'est le Deutéronome, chapitre 6, verset 16. Et puis, quand il dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul », il cite encore le Deutéronome 6 et le verset 13. Il montre une familiarité avec l'Écriture. Il connaissait ces textes. Il les connaissait. Et je dis qu'il les connaissait par cœur, n'est-ce pas? Il n'a pas cherché vite un rouleau, il n'a pas pris son smartphone pour, avec la concordance, pour essayer de regarder quel verset. Non, il les connaissait. Il était familier avec l'Écriture. Et quand on lit la Bible, on voit combien Jésus avait un rapport étroit avec l'Écriture, avec l'Ancien Testament. Plusieurs fois, il parle avec des interlocuteurs, et il leur dit quoi? Il leur dit, n'avez-vous pas lu dans la loi? Il les renvoie à la loi. Ici, qu'est-il écrit dans la loi? Dit-il. Qui lis-tu? Lorsqu'un jeune homme vient le voir,
que dois-je faire pour être pour avoir la vie éternelle? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans la loi? Qui lis-tu? Etc. Lorsque les pharisiens viennent le piéger sur la question du divorce, vous vous rappelez, ils disent, oui, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu créa, etc. Et il les ramène au texte de la Genèse, au texte de la création. Et il cite Jonas, il parle du déluge, et donc on voit qu'il avait cette connaissance de l'Écriture. Et lui-même disait, concernant lui-même, afin que l'Écriture soit accomplie, hein, parce qu'il est écrit de moi ceci, etc. Donc montre qu'il avait vraiment une connaissance de des Écritures. Et faut pas croire que sa connaissance des Écritures, il l'avait parce qu'il était aussi parfaitement Dieu. C'est pas en tant que Dieu que Jésus subit la tentation ici. C'est en tant qu'homme. Et c'est avec les moyens qui sont pourvus aux hommes qu'il résiste aussi à la tentation, avec la parole de Dieu. Et il l'a apprise comme un homme. Il l'a apprise dès sa jeunesse. Marie et Joseph, sans doute, l'ont enseigné dans la parole de Dieu. Donc, c'est pas juste, il les connaissait parce qu'il est Dieu. Non, il les a apprises. Il a appris à lire, à les mémoriser. J'ai lu que dans un livre que selon la coutume juive, les enfants juifs entraient à 6 ans dans ce qu'ils appelaient l'école, une école qui s'appelle la maison du livre. Et il dit pendant plusieurs années, ils mémorisaient à cette époque l'Ancien Testament et particulièrement le Pentateuque, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et à l'âge de 12 ans, eh bien, ils deviennent des fils de la loi. C'est peut-être pour ça qu'on voit Jésus à 12 ans discuter avec les docteurs de la loi. Et la Bible dit même qu'ils sont impressionnés par sa connaissance. Hein. Et c'est des choses qu'il a apprises. Il ne faut pas croire que c'est il a fait appel comme ça. De même qu'il n'a pas fait appel à sa puissance pour transformer les pierres en pain pour se sortir de cette situation, il n'a pas fait appel à autre chose non plus que l'apprentissage, le dur apprentissage. L'épître aux Hébreux dit, bien qu'il fût fils, il a souffert par les choses qu'il a apprises. Il est passé par un apprentissage, par la lecture. Et donc on voit qu'il y avait une familiarité de Jésus. Cet attachement à la parole de Dieu montre par ces citations qu'il était familier, avec la parole de Dieu, ici. Et ces citations montrent aussi que Jésus reconnaissait l'autorité de la parole de Dieu, et l'inspiration de la parole de Dieu. Quand il cite Moïse, d'accord, quand il dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement », c'est Moïse qui a dit cela, d'accord ? Moïse dit, souvenez-vous que l'Éternel vous a fait passer par le désert afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas. On va lire ce passage tout à l'heure. C'est Moïse qui dit ça, mais il prend cela et puis il lui donne autorité de parole de Dieu parce qu'il répond, d'accord, il est écrit, ça veut dire, là il cite, hein, dans la main, quand on dit il est écrit, ça veut dire que ça c'est la parole de Dieu, et il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc il reconnaît l'inspiration, il reconnaît l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est dans cette parole qu'il va puiser sa force, et dans rien d'autre. Il puise sa force lors de cette épreuve, là où tout enfant de Dieu doit puiser aussi sa force. Et c'est pas dans les moyens extraordinaires que nous devons puiser notre force, c'est dans la parole de Dieu. Et Jésus montre ici, par ces citations, qu'il reconnaît cette autorité, cette inspiration. Donc il nous faut reconnaître aussi cette autorité, cette inspiration, et il nous faut chercher à puiser toujours nos forces dans cette parole de Dieu. Donc dans le récit de la tentation ici, de Jésus par le diable, on voit bien que tout tourne autour de la parole de Dieu. Le diable, il attaque à chaque fois la parole de Dieu, ce que Dieu vient de dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il attaque le psaume 91 et il attaque le psaume 2, quelque part. Hein. Il utilise la parole et le but est toujours de renverser la confiance que l'on a dans la parole. Et toute tentation, j'ose dire que toute tentation, pour but ultime de renverser la confiance dans la parole de Dieu. Alors, les tentations peuvent prendre des formes différentes, mais le but est toujours de renverser la confiance dans la parole de Dieu. C'est exactement ce que l'on voit dans Genèse chapitre 1 avec Adam. Hein. Vous savez que Jésus est appelé le second Adam. Second Adam. Et Adam, hein, donc dans la Genèse, lui a été placé dans un test d'obéissance aussi. Il était dans un jardin, il avait une femme, il avait des fruits à manger, il avait tout un tas de choses autour de lui, sauf Jésus lui avait dit, voilà, tu peux manger de tout ce qu'il y a dans le jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'était le moyen de montrer à l'homme qu'il est un être dépendant, qu'il peut régner sur beaucoup de choses, mais qu'il règne par délégation, et qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui, il n'est pas le maître absolu de tout, il y a quelqu'un qui règne au-dessus de lui, à qui il doit rendre compte. Et chaque fois, probablement, qu'il voyait cet arbre, cela devait lui rappeler, ah, je dois obéir à Dieu, je ne peux pas toucher cet arbre. Et donc, il doit montrer par son obéissance qu'il dépend de Dieu, et que Dieu règne sur lui. Eh bien, vous savez, vous vous rappelez bien que, eh bien, il n'a pas réussi à ce test. Comment le diable est intervenu pour le faire chuter? En faisant douter de quoi? De la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit ceci, hein? Et puis ici, il dit à Jésus, Dieu n'a-t-il pas dit cela? Dieu n'a-t-il pas insinué cela? Dieu ne vient-il pas de dire que tu es son fils? Et c'est toujours ainsi, le but qui est recherché dans la tentation, de renverser la foi et la confiance dans la parole de Dieu. Parce qu'une fois que c'est détruit, eh bien, la porte est ouverte à tout. Hein. Et je parlais avec un couple cette semaine, et on disait que il y a une différence entre les péchés et le péché. Hein. Le péché, fondamentalement, c'est le fait de refuser que Dieu règne sur nous, qu'il a des droits sur nous. On refuse et on rejette cela. Et les péchés, c'est tout ce qui est la conséquence de ce rejet, de ce détournement de la parole de Dieu. Alors on peut parler de l'adultère, du vol, du meurtre, du mensonge. Tout cela, ce sont les conséquences du fait que on rejette la parole de Dieu et qu'on ne veut pas à s'y soumettre. Donc Jésus ici, lui, il montre vraiment sa soumission, sa reconnaissance de l'autorité de la parole, et on voit qu'il cherche constamment à se soumettre à cette parole. Donc, ce que l'on comprend ici, pourquoi est-ce que c'est important de lire et d'étudier la Bible? Parce que l'attachement à Dieu, on ne peut pas dire qu'on est attaché à Dieu si on n'est pas attaché à la parole de Dieu. Jésus qui est le Fils de Dieu, qui a l'attachement le plus fort, hein, le plus intime avec Dieu le Père, montre cet attachement par la soumission à la parole de Dieu, par sa familiarité avec cette parole, par l'acceptation de son autorité, de son inspiration, par le fait qu'il se soumette volontairement. Il dit, je suis venu pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et quand il était en prière en Jean chapitre 17, rappelez-vous, un peu avant sa crucifixion, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Tout ce que Dieu lui a donné à faire, il le fait. Il dit, Dieu ne me laisse jamais seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il est complètement soumis à la volonté de Dieu et à ses paroles, et y compris, je vais lui dire, hein, la parole écrite, celle qui est révélée dans l'Ancien Testament. Et on peut le voir très facilement, même quand Jésus parle de lui, Il ne dit pas des choses nouvelles. Rappelez-vous aux disciples d'Emmaüs qui étaient attristés parce que Jésus était mort et puis ils avaient mis leur confiance. Ils pensaient que c'était lui qui allait les délivrer de la domination romaine. Et puis maintenant il est mort et Jésus leur dit quoi? Il leur dit, ô homme sans intelligence, quoi? Lent à croire tout ce qu'ont écrit les prophètes. Tout ce qu'ont écrit les prophètes. Et puis la Bible dit, et commençant par Moïse et les prophètes, je crois qu'il dit là, et il leur explique tout ce qui le concerne. Mais il le fait en utilisant l'écriture. Il le fait d'une manière soumise aux écritures. C'est dire l'importance, frères et sœurs, de l'écriture. Jésus même montre à quel point il est soumis. Lui qui est la parole même, hein, de Dieu, lui qui aurait pu dire une parole nouvelle, lui qui aurait pu dire des choses complètement différentes, pour non, il se soumet à ce qui est écrit. Et il lutte lorsqu'il est en proie à la tentation par Satan, qui était une tentation extrêmement dure, hein. Il y a des gens qui disent parfois, oui, bon, le diable n'a pas le temps pour nous. Déjà, il est pas omniprésent, d'accord? Il est pas omnipuissant. Donc, il peut pas être partout à la fois, hein. Donc, quand il s'occupe de quelqu'un, il s'occupe des gros poissons. Des très, très, très gros poissons. On pourrait dire, hein. Donc, c'est pas nous. Hein? Donc des fois on est là, oui bon, j'ai pas réussi à... Donc le diable m'a empêché de... Le diable m'a fait ceci. Ou alors on a un problème pour se réveiller. Le diable a voulu me laisser dans le lit. Enfin, oui, chers frères et sœurs. Oui. Hein? Quelque sorte, si on veut. D'une certaine manière, mais Jésus est celui qui a subi la tentation la plus forte, la plus intense. Hein? Le diable lui-même. Et quand on regarde dans l'écriture, il y a peu d'endroits où on voit le diable tenter lui-même, directement des personnes. D'accord? Je crois qu'il y a, Job, un peu, hein. On voit quelques personnes comme cela. Puis il y en a d'autres, mais je me souviens pas, mais pas beaucoup, hein. Jésus, lui, il a subi et puis bien sûr le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et Jésus, lui, a subi pleinement cette tentation. Et il montre son attachement à la parole de Dieu. Deuxième chose qu'on peut voir ici de ce que Jésus dit, la manière de répondre de Jésus, c'est que la parole de Dieu, c'est le meilleur rempart contre les assauts du diable. Donc, il montre qu'il est attaché à cette parole parce qu'il la cite, mais il montre aussi que c'est le meilleur rempart parce qu'il n'utilise que la parole de Dieu. Il ne fait pas de miracles. Il ne fait pas de choses extraordinaires pour repousser le diable. Il ne fait que citer la parole de Dieu. Au verset 10-11, on lit ceci à la fin de notre passage. Il dit, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Et que fait le diable? Alors le diable le laissa. Et voici, les anges vinrent et le servirent. Le diable se retire après 3 essais, 3 assauts. Il se retire face à l'utilisation, on pourrait dire, systématique de la parole de Dieu. Il ne fuit pas quand on parlemente avec lui comme Ève l'a fait. Voilà. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit, mais, etc. Il ne fuit pas lorsque l'on fait ceci. Mais lorsque systématiquement on oppose, Jésus oppose ici la parole de Dieu, eh bien la Bible dit qu'il le laissa. Et Luc dit qu'il le laissa jusqu'à un temps favorable, parce qu'il n'abandonne pas. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut rester toujours attaché à la parole, et ne pas croire que tout est terminé. Le diable ne fuit pas parce que on le chasse en disant « sors d'ici », ou on le chasse en disant « au nom de Jésus, je t'ordonne de ». Hein. C'est pas comme ça qu'il sort, il s'en va ici parce qu'on résiste par la parole. Jacques 4, 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors comment est-ce qu'on résiste au diable? En se soumettant à Dieu. Et comment on se soumet à Dieu? En se soumettant à ce qu'il a écrit, en se soumettant à sa parole. Donc c'est la soumission à la parole de Dieu qui permet de résister au diable et qui le fait fuir loin de nous. La parole de Dieu est une arme puissante, comme Jésus le montre. N'est-ce pas, dans ce passage, l'apôtre Paul écrit en 2 Timothée, il écrit à Timothée, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc il dit ici que la parole de Dieu, elle est efficace. Donc non seulement elle est efficace, on le voit ici dans notre texte, pour lutter contre le diable, mais elle est efficace pour rendre sage à salut. Elle est efficace pour convaincre, elle est efficace pour corriger, elle est efficace pour instruire, elle est efficace pour rendre parfait, accompli, afin d'accomplir les œuvres de, les bonnes œuvres, les œuvres que Dieu met devant nous. Alors les mathématiques, la science, la philo, la médecine, l'histoire, la géo, l'informatique sont de bonnes choses. Hein? C'est bien quand on peut faire des mathématiques, quand on peut raisonner, quand on peut faire de la science ou de la littérature ou de la médecine, etc. Mais rien de toutes ces choses ne peut conduire une seule âme au salut. Hein? Ces choses sont utiles dans la vie courante, mais ne sont pas, ne permettent absolument pas de conduire une seule âme au salut. Mais faites écouter l'évangile à quelqu'un qui croit, et vous verrez les transformations qu'il y aura dans la vie de cette personne. L'Écriture dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc la parole de Dieu, elle est puissante pour repousser ici hein, les assauts du diable, mais elle est puissante pour toute bonne œuvre, elle est puissante pour convaincre, puissante pour amener les hommes à une profonde conviction de leur état de péché. Elle dit même, il y a un verset qui dit qu'elle est tranchante, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et c'est vrai que rien que le fait parfois de citer la parole de Dieu de manière à propos est extrêmement efficace. Ici. Et c'est ce que Jésus a fait. Hein. Il n'a fait que citer la parole, mais il l'a bien citée, et cela montre l'efficacité de la parole. Je me souviens de cette personne avec qui j'ai discuté une fois, et j'essayais de convaincre avec des mots, quelqu'un de la famille, et puis sur l'évangile, mais j'essayais d'utiliser un peu d'argumentation à droite, à gauche, puis elle restait là, elle répondait, et puis, je sais pas, à un moment donné, elle est venue de citer un verset qui soulignait exactement ce que je voulais dire, et j'ai juste dit, mais la Bible dit ceci. Et cette personne avait comme un peu comme capitulé dans le fauteuil, et puis elle s'est assise et puis elle a dit « Ah oui, ça c'est vrai. » Alors j'étais en train de suer à donner des arguments, et puis juste parfois un verset de la parole de Dieu accompli, vraiment, je n'ai pas tourné vers Christ pour autant, mais je lui ai dit « Mais au moins, elle a dit oui, ça c'est vrai. » Et il avait une conviction qui est venu sur la vérité de ce qui était dit. Parfois, on a peur de citer. On pense que c'est en argumentant qu'on va pouvoir faire des choses. Mais non, la Bible montre ici que la parole, c'est vraiment le meilleur moyen, c'est la meilleure arme, c'est le meilleur rempart contre la tentation, contre le diable, mais c'est la meilleure arme aussi pour amener à la conviction. Bien sûr, l'Esprit de Dieu agit toujours avec la parole, pour amener cette conviction. Troisième chose que je voudrais, et dernière chose que je voudrais souligner rapidement, dans ce que Jésus dit ici, c'est que la parole de Dieu, et non le pain, est ce qui donne la vie à l'homme. La parole de Dieu est ce qui donne la vie à l'homme. Donc elle est utile pour résister, elle prouve notre attachement à cette parole, prouve notre attachement à Dieu. Mais il dit une chose qui est très importante, il dit que la parole de Dieu, et non le pain, est ce qui donne la vie à l'homme. Verset 4. Jésus répondit, quand le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et au verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » On a cité ce verset ce matin, hein? Même quelqu'un priait à citer encore. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, c'est une citation du Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Je vous invite à regarder Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Parce que bon, c'est une citation que Moïse, c'est quelque chose que Moïse dit quand le peuple d'Israël est où? Est-ce que vous vous rappelez? Il est dans le désert et il s'apprête à rentrer, traverser le Jourdain et à entrer dans la terre promise en Canaan. Et Jésus est un peu dans cette même situation, il est dans le désert. Après combien d'années le peuple d'Israël était dans le désert? 40 années. Après combien de jours Jésus est tenté dans le désert? 40 jours. Il s'apprête, il est au début de son ministère, hein, c'est juste après son baptême, donc il s'apprête à rentrer dans son ministère de 3 ans. Donc il y a des similitudes un peu dans cette situation. Et regardez ce que le texte nous dit à partir du verset 1, on va aller du verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit, vous observerez, et c'est Moïse qui parle au peuple, hein, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez. Donc il parle bien sûr de la parole de l'Éternel, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Okay. Souviens-toi de tout le chemin que ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, t'a fait faire, dit Moïse, pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, afin que tu connaisses, de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Autrement dit, toute parole, c'est ça que Jésus cite, ce verset que Jésus cite ici. Donc, ce passage nous dit que le chemin par lequel le peuple d'Israël est passé n'était pas un chemin accidentel. C'était pas par hasard qu'ils étaient trouvés dans cette situation, mais que c'était un chemin voulu par Dieu. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant. C'est Dieu qui a voulu que le chemin soit ainsi. Mais non seulement il a voulu les faire passer par un chemin difficile, mais regardez ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait au verset 3? Il dit, il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a affamé. Hein, et il t'a, après, nourri avec de la manne que tu ne connaissais pas. Donc, et il montre que c'était pas la faute à la météo, ça, hein. Qu'ils avaient faim, il n'y avait pas de nourriture à manger. C'était pas la faute à la guerre. C'était Dieu lui-même qui intentionnellement avait provoqué cette précarité. Le peuple s'apprête à rentrer dans la prospérité, parce que Dieu dit quand tu rentreras dans le pays, que tu auras ceci, tu auras cela, des raisins, des trucs qui vont pousser dans ton jardin, tu auras construit des maisons. Il dit garde-toi d'oublier la leçon qui a été apprise dans le temps de précarité. Donc Dieu les a volontairement placés dans la précarité. Mais il dit qu'il le fait pour un but précis. On pourrait dire presque un double but ici. Quel est ce double but? Premièrement, regardez ici, il dit au verset 2, il dit, il t'a humilié pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Donc pour révéler l'état du cœur du peuple. Le peuple avait besoin que lui soit révélé ce qu'il y a dans son propre cœur. Il avait besoin que lui soit révélé qui il est lui-même. Hein? Et rien de tel que des circonstances difficiles pour cela. Dieu discerne l'état du cœur dans n'importe quelle circonstance. Que ce soit dans la prospérité ou dans la précarité. Donc Dieu n'a pas besoin de situation particulière pour savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Mais il nous montre que l'homme, lui, il a besoin d'une situation particulière pour savoir ce qu'il y a dans son propre cœur. Et en général, c'est pas la prospérité. Dans la prospérité, on oublie. C'est pour ça que le psalmiste qui dit « Ne me donne ni richesse ni pauvreté, ne peur que dans la richesse, je ne t'abandonne, et que dans la pauvreté, je ne dérobe. Hein. Donne-moi juste ce qu'il faut. » Parce que souvent dans la prospérité, on oublie Dieu ici. Et donc, il donne des circonstances difficiles parce que les circonstances difficiles sont propres à faire prendre à l'homme conscience de l'état de son cœur. Et Jésus, il est tenté en circonstances difficiles. Pas manger pendant 40 jours, il est seul dans le désert, et peut-être avec des bêtes sauvages, on ne sait pas. Mais la deuxième chose, le deuxième but ici que Dieu se fixe, c'est lequel? Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avais pas connu tes pères, afin, dit-il, de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et il dit, il t'a fait connaître la faim, afin de t'apprendre la dépendance à la parole de Dieu. Il veut te faire dépendre de la parole de Dieu, et savoir que pour ta nourriture, tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas de pain, mais tu as besoin de la parole de Dieu. Que ce soit pour ta nourriture spirituelle, ou que ce soit pour ta nourriture physique, ici. Ce que Dieu dit, ici, ce n'est pas que l'homme vit de pain pour son corps et qu'il doit vivre de Dieu, des paroles de Dieu, spirituellement, pour tout ce qui est spirituel. Il dit que ce n'est pas le pain qui nourrit l'homme. C'est ce qu'il dit, en fait, dans le fond. Il dit que c'est la parole de Dieu qui nourrit l'homme. Le pain tout seul, ou la nourriture toute seule, ne suffit pas à la subsistance de l'homme. La vie ne dépend pas de ce que l'homme mange, mais elle dépend de la parole de Dieu. Vous pouvez avoir toute la nourriture que vous voulez. Si Dieu, par sa parole, dit, c'est terminé, c'est terminé. Ce que Dieu est en train de dire ici. Et c'est pas le pain qui est quelque chose. C'est la parole de Dieu derrière le pain qui est quelque chose. Et il y a un auteur, Adolphe Monod, il le dit comme ça, j'aime bien comment il dit. Il dit, le secret de la vertu nutritive se trouve non dans le pain, mais dans la parole de Dieu, de laquelle seule procède toute vertu et toute bénédiction. Et ce qu'il veut souligner ici, c'est que le blé qui donne le pain, d'accord, n'est assimilable par le corps humain que parce que Dieu a dit, par sa parole, « Je vous donne toute herbe portant de la semence en elle et à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant du fruit, en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Qui c'est qui a dit ça? C'est Dieu qui dit ça en Genèse chapitre 1, verset 29. Ainsi, c'est pas le pain qui nourrit, c'est pas le blé qui nourrit. Ce qui nourrit, c'est la parole de Dieu qui a affecté au blé cette fonction. Si Dieu avait dit, les cailloux seront votre nourriture. Est-ce qu'on mangerait des cailloux? Bien oui, vous mangerez des cailloux. Et on trouverait ça bon. On mangerait du sable. On trouverait ça bon. Pourquoi? Parce que il aurait, par sa parole, il l'a décrété que pour l'homme, c'est ce qui est bon. C'est ce qui va être absorbé par son organisme. C'est ce qui va le nourrir, etc. Donc c'est, l'affectation des choses, elle est donnée par la parole de Dieu. Quelqu'un a lu le psaume, je pense que la sœur a lu le psaume 104, on voit Dieu qui donne le pain, qui fait, c'est lui qui dirige toutes choses, c'est lui qui dit les animaux vous aurez l'herbe pour manger, l'homme vous aurez les arbres qui portent les fruits, et puis les herbes qui portent leurs semences en eux-mêmes, etc. Après on peut la transformer, elle donne du pain bien sûr, mais ce qui nous nourrit, c'est pas le pain en lui-même, c'est Dieu. Et la preuve, Jésus il a passé combien de temps ici, dans le désert? 40 jours, sans manger. Et vous savez qu'il n'avait pas faim? Il a eu faim qu'à la fin des 40 jours. Si vous lisez le passage dans Luc, comment Luc le dit, me regarder bien, Luc chapitre 4, c'est pareil, Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4, donc c'est facile de retrouver ici la tentation de Jésus, mais en Luc chapitre 4, je vous lis, il dit Jésus fut emmené dans le désert, verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Il n'a pas eu faim pendant. Il a eu faim après. Et comment est-ce qu'il a pu subsister? Parce que Dieu a dit, tu vas subsister ainsi. Hein, j'écoutais quelqu'un qui disait, si Dieu disait aujourd'hui, bon à partir d'aujourd'hui, puisque les hommes veulent faire de l'écologie, on veut pas trop d'empreinte carbone, on veut pas trop utiliser le sol pour nourrir, eh ben, vous allez vivre juste avec votre respiration. On vivrait comme ça. Hein? Est-ce que nous croyons que Dieu peut faire cela? C'est sa parole, ce qu'il décrète, qui donne la vie. Ce ne sont pas les éléments matériels, les éléments matériels ne sont que des éléments secondaires, des moyens par lesquels il accomplit sa volonté ici. Moïse a tenu 40 jours, 40 nuits, la Bible dit, Deutéronome chapitre 9, verset 18, il dit, sans manger et sans boire d'eau. 40 jours. Comment est-ce qu'il l'a fait? Parce que Dieu a décidé qu'il pouvait le faire. Dieu l'a soutenu. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Et toutes choses, ça veut dire tout ce qui vit. Notre planète entière, nous compris avec. Quand les disciples viennent voir Jésus quand il est dans Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine, vous vous rappelez, ils sont allés en ville acheter des vivres parce qu'il fallait manger, hein. Et ils courent, ils reviennent vers Jésus, et puis il dit, mais Rabbi, mange, tu dois avoir faim, mange. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Un peu comme la manne que vous ne connaissiez pas, et que n'avaient pas connu vos pères, et qui vous ont nourri. Dieu peut susciter, d'accord, des enfants à partir des cailloux, du pain à partir des cailloux. Il peut faire tout cela, d'accord, et il peut faire aussi que on subsiste sans manger. Et il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. John MacArthur résume un peu tout ça en disant, la seule vraie source de l'existence de l'homme est la puissance créatrice, fortifiante et nourrissante de Dieu, de sa parole. C'est la seule vraie source de l'existence. C'est par sa parole que tout subsiste. Et donc Jésus dit au diable qui le tente et qui lui dit, mais voilà, tu as un problème là, il faut manger, sinon tu vas mourir. Il dit non, mais en fait l'obéissance à la parole de Dieu est bien plus nourrissante que le fait de chercher du pain à manger et de transformer la situation en utilisant des moyens que Dieu n'a pas pourvus. Il montre qu'il a une telle confiance dans la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la vie par sa parole, c'est lui qui soutient la vie par sa parole. Voilà, donc ce que je vais conclure, chers frères et sœurs, ici en disant, en posant une question, quel est notre attachement à la parole de Dieu? Nous trébuchons peut-être beaucoup parce que nous attachons peu d'importance à la parole de Dieu. Est-ce que nous la lisons? Est-ce que nous la lisons? Jésus la lit, hein? Il la connaissait par cœur. Alors nous avons des Bibles en veux-tu, en voilà, hein? On a des smartphones avec 54 versions, anglais, tamoul, créole, tout ce qu'on veut. C'est bien, mais est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on lit la parole de Dieu? Combien de temps mettons-nous à lire la parole de Dieu? Qui a lu entièrement la parole de Dieu cette année ou ces deux dernières années? Ou sur 3 ans, si vous mettez 3 ans. D'accord. Est-ce que l'on a lu la parole de Dieu? Il est impossible d'être attaché à Dieu ou de dire qu'on est attaché à Dieu si on n'est pas attaché à sa parole. Le seul moyen d'être attaché à Dieu, c'est par sa parole. C'est la seule chose qu'il nous a donnée. Et il n'y a aucune possibilité de communion avec Dieu en dehors d'un attachement à la parole de Dieu. Et l'attachement, c'est la foi dans la parole de Dieu, c'est la soumission à la parole de Dieu. Mais on ne peut pas être soumis à ce que l'on ne connaît pas. Jésus avait dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On n'adore pas ce qu'on ne connaît pas. Il dit, il faut connaître. Il faut donc, on peut dire, oui, j'adore Dieu, mais si on ne lit jamais la parole, on ne sait même pas quel Dieu on adore. D'accord. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut la lire de la première page à la dernière page, de manière systématique. Faut pas, on prend un verset par là, et puis après on a quelque chose d'un peu, un genre de patchwork dans notre tête, un petit peu. Non, il faut lire complètement la parole de Dieu pour pouvoir en saisir le sens. Il faut s'engager à la lire tous les jours. Et c'est ce que je vous propose de faire si vous ne le faites pas. Si vous le faites très bien, il faut continuer, demander à Dieu la grâce de continuer. Mais si vous ne le faites pas, il faut absolument le faire. C'est une question de vie ou de mort, ici. Jésus dit, cette parole que vous rejetez, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Ben, il était intéressant d'aller savoir quelle parole va nous juger au dernier jour. Il faut la lire, hein, pour savoir cela. Engagez-vous à la lire de tous les jours. Engagez-vous de la lire à manière ordonnée. Engagez-vous à lire toute la Bible. Qui a lu la Genèse? Tout le monde va lever la main. Plus ou moins. Qui a lu Exode en entier? Peut-être tout le monde va lever la main. Qui a lu Lévitique? C'est un peu moins, hein? C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, un peu plus dur, un peu plus ardu. Mais est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce qu'elle mérite d'être lue, comme tout le reste? Absolument. Absolument. Donc pendant que vous êtes en vacances, voilà, je sais bien qu'il y a des tentations d'aller, voilà, de faire de la balade, de faire ceci. Il faut bien sûr se détendre, mais, l'enfant de Dieu doit d'abord lire toute la parole de Dieu. Il faut mémoriser la parole de Dieu. Il y a un petit papier au fond avec l'épître de Colossiens à mémoriser. Ici, vous pouvez vous inscrire, même si vous ne le réciterez pas. Inscrivez-vous, apprenez-le, chers frères et sœurs. Ne dites pas, je n'ai pas de mémoire. C'est pas vrai, parce que c'est juste pas vrai. C'est juste pas vrai. Bon, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, mais Dieu nous donne une mémoire pour apprendre, ne serait-ce que une petite section. Apprenons avec la mémoire qui nous donne la section que nous pouvons apprendre. Mais apprenons la parole de Dieu. Jésus n'a pas pu dire ce qu'il a dit, n'aurait pas pu dire si ce n'était pas dans son esprit. On ne peut pas faire appel à ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'a jamais lu, ce qu'on n'a jamais mémorisé, ce sur quoi on n'a jamais médité. C'est impossible. C'est impossible. Et le diable pourra, il ne va pas s'amuser à nous tenter, il a peut-être d'autres choses à faire, mais on sera tenté néanmoins par son influence, hein, et on va chuter si on n'a pas cette connaissance mémorielle de la parole de Dieu. Engagez-vous à l'apprendre. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire que chaque fois qu'il sort cette parole, elle surgit parce qu'elle est là, elle est présente dans son esprit. Mais elle ne peut être présente que si on la mémorise, si on la lit, on la lit, on la lit. C'est pour ça qu'il faut lire chaque année. Parce que si on lit une fois et puis on dit, bon, ben voilà, c'est bon, j'ai terminé, je l'ai lu, c'est bien, j'ai fait mon devoir, ben, ça sert pas à grand chose. On a besoin de se rappeler constamment de cette parole. Il faut non seulement la lire, mais il faut aussi l'étudier. Parfois, il y a des passages qui sont difficiles. La dernière fois, ma femme me parle, elle m'a dit, ouais, Isaïe, on n'a pas beaucoup fait ça, c'est difficile, et il faut quand même qu'on arrive à étudier Isaïe, les prophètes comme cela. Elle dit, oui, et ce qu'on fait, c'est d'avoir des commentaires, des livres qui vont nous aider à comprendre un petit peu mieux. D'accord? Mais, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut lire, il faut étudier, il faut pas être paresseux. Il ne faut pas être paresseux. Le diable sera toujours là pour nous faire abandonner, pour nous décourager dans l'écriture. Soit il va nous faire nous éloigner de l'écriture, soit il va prendre l'écriture, il va tordre le sens. Comme Jésus, hein. Il dit, ouais, il est écrit que si tu sautes en bas, il enverra ses anges pour te rattraper. Alors fais-le. Et Jésus dit quoi? Mais il est aussi écrit, il rééquilibre un petit peu par une autre parole de l'écriture. Mais pour faire ça, il faut connaître, hein. On fait pas ça quand on connaît pas, hein. On dit, serait été nous, serait là. Ah oui, ah ben oui, c'est vrai alors. Ben je saute. Non. Hein, il faut dire non, c'est pas vrai, c'est pas juste ça, il faut aussi équilibrer avec un autre passage de la Bible. Je me souviens, dans Matthieu chapitre 10, hein, Jésus dit, lorsque on vous maltraitera, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, hein, pas si je l'ai noté ici, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, il dit parce que Dieu lui-même vous dira ce qu'il convient de dire. Il mettra dans votre bouche ce que vous aurez à dire, par le Saint-Esprit. Et un jour, il y a un frère qui m'a dit, moi, quand je prêche, j'ai pas besoin d'étudier trop, je regarde pas trop, j'ai le passage, le titre, deux, trois points dans ma tête, et puis après, j'y vais. Parce que le Saint-Esprit dit, il vous donnera au moment même les paroles, c'est pas la peine de vous tracasser, etc., etc. Et c'est ce que le diable fait avec, peut faire avec nous. Pourquoi tu vas te forcer à travailler pour préparer le message, etc. Il faut laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Tu y vas, tu ouvres le passage, et au moment même, l'Esprit de Dieu va te parler et tu diras ce que tu dois dire. Mais on trouve d'autres passages dans la Bible qui dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, applique-toi. Dispense droitement la parole. Donne-toi tout entier à l'écriture. Travaille, transpire avec. Tu vois, travaille l'écriture. Donc, oui, bien sûr, il y a certains endroits que Dieu va nous guider, mais à d'autres endroits, il dit qu'il faut travailler. D'autres disent, mais pourquoi tu fais des efforts? La Bible dit que c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. C'est pas la peine de te forcer dans la vie chrétienne. Laisse rouler, ça va tout seul. Mais l'apôtre Paul ajoute pas loin à côté, travaillez à votre salut avec quoi? Avec crainte et tremblement. D'accord? Donc on a besoin, si on n'a pas toutes ces choses-là, on sombre dans notre vie. Et on a besoin d'apprendre vraiment à connaître la parole de Dieu. Donc chers frères et sœurs, je vous encourage à méditer, à lire la parole de Dieu. Quand vous prenez une décision, est-ce que vous êtes motivé par ce que la parole de Dieu dit? Dans tous les domaines. Où vous voulez acheter un vêtement? Est-ce que vous dites, ah mais, Dieu dit qu'on doit s'habiller de telle manière, on doit se couvrir, on doit être avec pudeur, etc. Est-ce que ça correspond à ce que la parole de Dieu dit? Oh, on fait pas ça en général. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, ça me plaît. Je le prends. Ça te plaît pas, tant pis, mais moi ça me plaît. Ça me prend, hein? On fait pareil dans d'autres domaines. La musique. Ou le choix d'un conjoint. D'accord? Est-ce que, comme Jésus, on est, à chaque fois, c'est le « il est écrit » qui nous façonne? Ou est-ce que c'est ce qu'on a envie dans le cœur? Le chrétien ne doit pas vivre en disant « bon, ça, c'est ce que j'aime, ce que j'aime pas, et puis après, c'est toi qui aimes. Tu aimes ce genre de truc, moi j'aime ce genre de truc, et puis après tout, c'est ton... » Non. Il doit vivre en se disant « mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que je suis soumis? Est-ce que je montre mon attachement à Dieu quand je fais comme ça? Quand je pense comme ça? Quand je parle comme ça? Quand je m'habille comme ça? Quand j'écoute ça? Quand je fréquente comme ça? Est-ce que je fais comme il est écrit ?» C'est ça qui doit nous motiver. Et pour être pétri de cette pensée-là, il faut lire. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu, parce qu'on ne la médite pas, parce qu'on ne la mémorise pas, parce qu'on n'apprend pas à travailler avec. Et nous sommes à la merci de n'importe quoi. Puisse le Seigneur nous aider, à partir d'aujourd'hui même, à prendre l'engagement de lire sa parole, afin d'être façonné par elle. Que nos pensées soient formatées par elle et qu'on puisse agir comme il nous le commande. Et comme Jésus, nous puissions dire, il est écrit, peut-être ça suffira pas une fois, deux fois on dira, il est écrit, ça suffira peut-être pas, mais la troisième fois, peut-être l'envie d'acheter ce truc, ça va disparaître. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole, qui est la vérité, et nous savons qu'il y a tant d'autres choses qu'il faut pour être dit dans ce domaine, mais nous voulons déjà que tu nous aides à démarrer, à prendre conscience. Merci pour tous ceux qui fidèlement lisent ta parole, la méditent et grandissent et sont un encouragement pour nous. Et nous prions que nous puissions les imiter. Seigneur, que nous puissions prendre dès aujourd'hui la décision de lire chaque jour ta parole, de nous fixer l'objectif de la lire entièrement, quoi qu'il en coûte. Oui, Seigneur, aide-nous à le faire. Donne-nous de pouvoir aussi prendre l'engagement de mémoriser ta parole autant que possible, même des petites portions, mais de le faire, Seigneur, de nous habituer à le faire. Seigneur, aide-nous à pouvoir utiliser ta parole comme Christ l'a utilisée, en ne faisant pas porter à une seule partie de ta parole plus d'importance qu'il n'en a, mais à utiliser toute ta parole pour prendre les décisions dans notre vie. Oui, Seigneur, ta parole est puissante, agissante. Qu'elle soit notre lampe sur notre sentier. Qu'elle soit notre épée face à l'adversité. Nous te prions ces choses et te demandons que tu agisses dans nos cœurs. Que tu touches le cœur de ceux qui ne te connaissent pas. Que tu les amènes à cette parole, qu'ils puissent comprendre que c'est par cette parole seulement qu'ils peuvent venir à toi. Conduis-les, comme nous l'avons lu ce matin, tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Seigneur, qu'il puisse venir avec la repentance et la foi à ta parole et être sauvé. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.